Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est notre 25e de cette 8e saison et je reçois aujourd'hui Chloé Danillon. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes conseillère départementale sur un canton qui s'appelle de la Malepère à la Montagne Noire, donc du côté de Carcassonne et au nord. Et vous êtes vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, chargée notamment de la protection de l'enfance. Et ça va être évidemment le sujet de prédilection dans cette émission Radio Bark. Alors vous êtes, Chloé Danillon, à votre deuxième mandat.
Tout à fait.
Donc vous êtes jeune, mais vous avez quand même déjà un petit peu d'expérience.
C'est ça, j'avais été élue en 2015, donc à l'âge de 24 ans, et donc là je suis à mon second mandat.
Voilà, et vous aviez une délégation qui était identique, enfin dans le même secteur?
Alors du coup j'avais commencé mon mandat sur une délégation qui était la lutte contre les discriminations. Sur la fin du mandat, notre présidente Hélène Sandranier m'a confié son ancienne délégation qui était la question de l'autonomie, donc des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et donc sur ce nouveau mandat, j'ai fait le grand écart.
Vous êtes passé à l'autre bout de l'échelle.
C'est ça, des personnes âgées, notamment à la question de la protection de l'enfance.
Voilà, et ça évidemment, quand on sait que les compétences de prédilection, obligatoires d'ailleurs, d'un département, c'est la solidarité. D'ailleurs, Hélène Sandranier répète toujours, quand on lui dit le social, non, elle n'aime pas ce mot-là, elle préfère la solidarité. Et la solidarité à la fois envers les personnes âgées, vous l'avez dit, Chloé Danillon, mais également envers l'enfance, la petite enfance. Et alors, la protection de l'enfance, justement, c'est un des gros budgets. Et vous avez voté votre budget primitif jeudi dernier, donc c'est tout neuf. C'est, et ça reste, un des gros budgets habituellement dans les départements, et peut-être plus encore dans les départements socialistes où il y a une volonté de privilégier cette approche.
Bien sûr, oui, on est à peu près sur 50 millions de budget sur le département pour cette année 2022. C'est un gros budget, mais c'est aussi de nombreux agents. On doit être à 600, si ce n'est 700 agents qui gravitent autour de la question de la protection de l'enfance, de l'accompagnement des familles. On a fait un choix politique, en tout cas, un engagement du département de se dire qu'on allait vraiment aller dans la protection de l'enfance. On voit au niveau national, on dit souvent que la protection de l'enfance, c'est un peu l'oublié des politiques publiques, que c'est peu présent dans les débats, alors que c'est souvent des gros budgets. Et je pense, il y a quelques semaines, un ancien chef d'État qui disait qu'en effet, en fait, c'est des enfants qui ont peu de poids politiques, qui ont une faible capacité de pression, et du coup, on n'en parle pas, on en parle peu.
Non, mais donc, nous, dans le département, ils ne sont pas électeurs.
C'est ça, ce sont des enfants qui ne sont pas électeurs, qui ont souvent des familles qui, de fait, sont un peu éloignées, donc ils ont, d'un point de vue électoral, ils intéressent peu, c'est en tout cas c'est ce qui semble être dit, mais nous, on en fait une priorité, c'est en tout cas un engagement fort pour nous.
Voilà, et ça va être évidemment le point fort de cette interview. Alors, l'enfant, normalement, c'est sa famille qui s'en occupe. On va essayer de partir au début du processus. Bon, c'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'à un moment, un département, une institution ait besoin de s'en mêler?
Tout à fait. Alors, en effet, le département, on est présent un peu à tous les temps de la vie, et ça commence même dès que il y a un projet d'enfant, qu'une maman est enceinte. On peut être l'accompagné par la PMI, par nos institutions, notre collectivité. Et puis des fois, ça se passe mal parce qu'on est face à des parents qui ont eux eu aussi une enfance difficile et qui sont pas capables d'accompagner leur enfant, ou en tout cas, il leur manque des clés. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés de logement. Et donc tout ça fait qu'à un moment, on essaye de travailler en prévention. Mais des fois, on arrive à des situations où on se dit qu'un enfant, en tout cas, ne grandit pas bien dans la maison où il est, qu'il est même en danger. Et à partir de là, il est du devoir du département de venir en aide à cet enfant en danger, de lui trouver un lieu sûr pour qu'il puisse grandir et s'épanouir.
Voilà, une famille. Et alors là, c'est un moment délicat parce que qui va décider ?
On est souvent sur une décision de justice. Une des entrées, c'est notre cellule de renseignement des informations préoccupantes, donc qui est gérée par le département. Les personnes, alors ça peut être des particuliers, mais ça peut être aussi des partenaires qui peuvent nous dire cet enfant, j'ai l'impression qu'il va pas bien, ou il y a des signes de violence qui m'inquiètent. Est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe ?
Et les partenaires, ça peut être la justice, donc ?
Ça peut être. Alors, des fois, c'est la justice qui nous saisit. Alors, c'est un peu plus rare, mais on sait, par exemple, sur des situations de femmes victimes de violences, par exemple, la justice va nous dire oui. « Allez voir quand même ce qui se passe auprès de l'enfant ». Ça peut être l'école, c'est très souvent l'école. 20% des situations, c'est l'école qui nous dit ben, un enfant qui a des bleus, un enfant qui a des propos qui inquiètent, un enfant qui ne vient plus à l'école. Tout ça, c'est des sujets qui inquiètent l'éducation. Ça peut être la santé.
Alors, quelle est la personne qui décide, donc ?
Alors, du coup, nous, on a une cellule qui fait une enquête. On a des assistantes sociales, notamment des psychologues, qui vont enquêter, qui vont voir la famille, qui discutent avec eux. Et ils en sortent une proposition.
Un diagnostic.
Si on considère que c'est très grave, que l'enfant est vraiment en danger, on va à la justice. Et on dit, on vous confie ça, et c'est la justice qui va décider de l'accompagnement qu'il y a. Si on considère que ça va. Et une fois sur deux, en fait, on se dit que l'enfant, c'était une inquiétude, mais qui n'est pas fondée, et donc que ça se passe bien. Et on a une autre option, c'est qu'on se dit, il y a quand même des difficultés, on va essayer de travailler à la famille. Donc on peut travailler avec eux sur un accompagnement à domicile, ou même leur dire, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait que l'enfant il soit confié dans un autre lieu le temps qu'on travaille ensemble. Donc ça peut être soit le département, mais souvent la justice qui décide ce qu'on appelle un placement, ce qui est un mot un peu dur, parce que ce n'est pas un pion qu'on utilise, c'est un enfant, donc moi j'aime bien dire le mot confié.
Oui, voilà, mais au bout du compte, ça revient au même, effectivement, il faut le confier à une famille ou le placer une famille, et il faut une décision de justice ou pas forcément ?
Pas obligatoirement, ça peut être aussi une décision du département, un accord entre familles.
Oui, avec l'accord de la famille quand même, avec l'acceptation de la famille.
Du moment que la famille n'est pas d'accord et que nous, département, on peut considérer qu'il faut, on a besoin de la justice qui vient nous... donner son regard.
Alors on passe à la seconde phase, si je puis dire, l'assistant familial. Donc cet enfant va être confié à une famille, à quelqu'un qu'on appelle un assistant ou une assistante familiale, alors à ne pas confondre avec assistant maternel.
Tout à fait. On a, sur le département, on a à peu près 1300 jeunes qui sont concernés par ces questions de placement et donc d'accueil en famille. On a soit les familles d'accueil, soit des lieux un peu plus collectifs. Donc pour ce qui est la question des familles d'accueil...
300 jeunes, c'est en tout.
1300 en tout.
Toutes catégories.
Oui, alors, oui, on a 1300 jeunes qui sont confiés, donc c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas à leur domicile très souvent. Et puis après, on a 2000 jeunes qui sont accompagnés mais sur des actions de prévention, sur des actions à domicile.
Mais plus ponctuelles alors.
Tout à fait, voilà.
Donc, tandis que là, les 1300, c'est du quotidien.
Tout à fait. C'est chaque jour qu'on les accompagne et qu'on accompagne dans leur vie quotidienne, en fait. Et donc là, on a les assistants familiaux qui rentrent en jeu, qui sont des personnes qui sont rémunérées par le département et qui sont agents du département. Donc on en a 350 à peu près sur le département. Et donc, c'est en fait, ils ouvrent la porte de leur maison à ces enfants et ils les accompagnent. Ils dorment à leur maison,
oui, ils
les accompagnent.
Ils deviennent un peu leurs parents, quoi, au quotidien.
Oui, voilà. Alors, on peut dire qu'ils deviennent en tout cas leur encadrant prioritaire. Voilà.
Oui, oui, oui. Et alors là, même question, Chloé Danillon, comment sélectionne-t-on ces assistants familiaux ?
On a bien sûr une exigence. Le but, c'est pas de confier ces enfants qui ont déjà eu des grosses difficultés, qui ont vécu souvent des traumatismes à la première personne qu'on pourrait croiser. Donc, on a des réunions de recrutement, de propositions qui se font du moment qu'une personne est intéressée. Elle vient déposer un dossier. Et là, on a des psychologues, des assistants sociaux qui viennent à leur domicile, qui échangent avec eux, qui voient comment est la maison, qui voient leur regard sur comment éduquer un enfant, leur regard sur la protection de l'enfance. Et à partir de là, quand ils ont, on va dire, passé peut-être ces tests ou en tout cas ces évaluations, ils peuvent intégrer un petit cycle de formation, une centaine d'heures qui leur permet d'avoir un accompagnement un peu plus poussé. Et à partir de là, ils peuvent commencer à accueillir des enfants à leur domicile.
Oui, voilà. Donc là encore, il y a une sélection très sérieuse faite par des professionnels. Et alors, est-ce que nécessairement un enfant qui a des problèmes, on va le mettre en famille ou on va le mettre dans une institution collective ?
Alors, on a l'idée de se dire que souvent, on essaie de privilégier les assistants familiaux parce que on sait qu'un enfant, notamment plus ils sont petits, a besoin aussi d'un attachement, a besoin d'avoir une stabilité affective et le fait de vivre en famille, il en apporte un peu plus. Donc, pour nous, c'est vraiment une idéologie pour le département, c'est de se dire que dès qu'on peut, on met des enfants en famille d'accueil. Il y a après des lieux collectifs qui existent, qui sont souvent des maisons d'enfants, mais on a aussi des petits lieux de vie d'accueil qui sont aussi des lieux très intéressants. Et ça peut convenir à des enfants qui ont un peu plus de difficultés, qui ont encore un attachement fort à leur famille, qui ont, on dit des fois, des conflits de loyauté et qui n'arriveront pas à s'attacher en famille d'accueil, ou en tout cas qui ne se sentiront pas bien et qui se sentent mieux en collectif, qui se sentent mieux aussi avec des personnes, des éducateurs un peu plus formés pour l'encadrement.
Plus professionnels, oui. Donc voilà. La famille d'accueil, ce n'est pas forcément la meilleure solution.
Pas toujours.
Oui, pas toujours. Mais quand même, majoritairement, c'est le cas.
Ce que nos équipes ressentent et ce qu'on ressent, c'est que c'est souvent une belle solution, mais pas toujours. Et c'est pour ça qu'il nous faut un peu les deux idées, confier en famille d'accueil et confier et accompagner sur des lieux collectifs.
Alors, ces 350 donc, agents du département assistants familiaux, pour arriver à 1300 enfants, ils peuvent en accueillir plusieurs, je pense.
Tout à fait.
Quelle est la limite ?
3. Des fois, on peut aller à 4. On se pose des fois aussi la question des fratries. On se dit que si on a un frère et une sœur, on essaie de ne pas les séparer. Et donc, on peut monter jusqu'à 4.
Ah oui, 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 voilà. Oui, quand même. Et ça explique que 350 peuvent arriver à couvrir
1300. Tout à fait, à plus de 600, 700 places. Voilà,
oui. Oui, oui, voilà. Et combien de temps, hein, en moyenne, forcément, c'est très variable, un enfant reste-t-il dans la famille ?
C'est vraiment très variable, c'est ça. Ça peut être peu de temps parce que ça se passe pas bien. On peut changer de famille d'accueil. Ça peut être, on a des cas, hein, des exemples d'enfants qui sont arrivés très tôt, qui sont arrivés presque à leur naissance et qui, à 16-17 ans, sont encore dans la même famille d'accueil parce que.
Ils ont passé presque toute leur vie de jeune dans cette même famille.
Tout à fait. Mais on a aussi, nous, un objectif qui est important et qu'on n'oublie pas, c'est de se dire que, d'autant qu'on peut, il faut essayer de travailler le lien avec les familles. Et que donc, l'objectif, c'est aussi de reprendre un lien et de faire en sorte que l'enfant, mais peut-être qu'il puisse repartir vivre dans sa famille.
Sa famille biologique, on
va dire.
Voilà,
tout à fait.
Mais est-ce que ça arrive très, très souvent, ce genre de situation ?
Ça arrive. C'est pas la plus grande majorité de ce qui peut arriver. Alors, des fois, on arrive à avoir des retours en famille, mais quand même, nos équipes qui continuent à suivre, mais ça demande beaucoup de travail des parents, en fait, qui doivent être accompagnés.
Une remise en cause très forte.
Oui, parce que si on arrive à des enfants qui sont confiés, c'est souvent quand même qu'il y a eu des situations très, très difficiles. Donc, il faut être sûr que l'enfant soit prêt à revivre avec ses parents, que les parents aient aussi travaillé sur comment ils pouvaient accompagner leur enfant. Donc, ça demande beaucoup de conditions qui sont encore aujourd'hui
difficiles à réunir. Oui. Et alors, une famille d'accueil, est-ce que ça marche à tous les coups ? Est-ce qu'il y a parfois des échecs aussi ?
Il y a des échecs comme partout, parce que c'est aussi une histoire de rencontre, en fait. Donc, une famille, des assistants familiaux qui rencontrent un enfant et comme dans la vie, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc nous, on fait en sorte de travailler les profils pour essayer que ça marche. Des fois, c'est des échecs, mais c'est pas grave, on en trouve d'autres. Et puis, on a toujours on trouve toujours une place pour l'enfant, en tout cas.
Oui.
Il y a toujours quelqu'un qui l'attend pour l'accompagner.
Oui. Et pour conclure donc cette partie sur la protection de l'enfance, vous avez donné, Chloé Dagnignon, le chiffre de 350 aujourd'hui. Mm-hmm. Vous avez une politique de recrutement pour les prochaines années.
Tout à fait. On est sur un objectif. En fait, on a 350 assistants familiaux. On sait qu'on a une partie de nos assistants familiaux qui s'approche de la retraite et que donc on va avoir des places qui vont être limitées. Puis on a aussi cette envie de les augmenter. Donc on se lance sur un plan de recrutement de 100 en 3 ans.
Oui, c'est-à-dire que vous voulez davantage d'assistants familiaux parce qu'il y a davantage de gosses, alors non pas à placer, mais à confier.
Tout à fait. C'est vrai qu'on ressent en tout cas une augmentation, on a une augmentation des informations préoccupantes, on a une petite augmentation de l'accompagnement, voilà, des enfants que l'on peut accompagner. Et puis, comme je vous disais, on a aussi cette volonté de se dire qu'on privilégie les familles d'accueil.
Voilà. Eh bien, merci Chloé Dagnignon. On va marquer une première pause. Merci d'avoir fait le tour de votre délégation à la protection de l'enfance. Et Dieu sait si c'est une partie importante dans la mission, parce qu'on peut parler de mission, du département et, en l'occurrence, de votre département de l'Aude. On marque une première pause.